Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce carnet de région, un magazine d'actualité régionale proposé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Et c'est 48 FM qui prend la rédaction en chef de ce magazine pour l'ensemble du mois de décembre. Au sommaire aujourd'hui, les emplois d'avenir, la mesure phare de François Hollande pour combattre le chômage des jeunes. Et nous irons nous intéresser à ce dispositif avec Nathalie Dessos de RCF Pays d'Aude. Et concernant les mesures gouvernementales, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, propose pour lutter contre les déserts médicaux de garantir un revenu minimum de 55 000 euros par an aux médecins qui s'installent en zone rurale. Et nous verrons en Lozère comment la mesure est perçue. Naïma Serve de Delta FM Terre de Camargue a rencontré le responsable d'une société basée à la Grande Motte, SM2 Solutions Marines, qui s'est associée à la ville en juillet pour restaurer les herbiers marins et qui s'est déjà vu décerner 2 trophées pour ce projet. Les fêtes de fin d'année sont propices au cambriolage et pour renforcer la sécurité des commerces et des entreprises dans l'Hérault, la gendarmerie et la CCI ont mis en place un système d'alerte SMS, un sujet d'Alain Mendez de Radio Lodev. Les marchés paysans et les circuits courts en levant en poupe, Frédéric Glisbel de Radio Pays d'Hérault est allé évoquer le sujet avec Yves Martineau, le président de l'association des marchés paysans du Languedoc-Roussillon. Enfin, nous terminerons ce carnet de région sur une belle note avec une opération pour aider les sans-abri dans l'Hérault, un sujet de RCF Maglonero.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Depuis le 1er novembre, le dispositif des emplois d'avenir est effectif dans toute la France et par exemple, l'Aude dispose de 570 emplois pour 2013. Et avant même la présentation officielle du préfet lundi dernier, 7 contrats avaient déjà été signés à Narbonne le vendredi 23. Un sujet de Nathalie Dessos de RCF Pays d'Aude.
Une bouffée d'air frais dans un contexte de crise endurcie pour les jeunes qui subissent près de 24% de taux de chômage en France. Les emplois d'avenir démarrent. Le préfet de l'Aude, Éric Fraisse-Linard, nous en rappelle le cadre.
Le gouvernement vient de lancer les emplois d'avenir qui seront des contrats aidés réservés aux jeunes non diplômés de 16 à 25 ans. Ce seront des contrats longs d'une durée de 3 ans à temps plein. Et que l'État rémunérera pour les employeurs à hauteur de 75% du SMIC brut. Donc c'est une formule tout à fait nouvelle et audacieuse, et nous espérons qu'ils pourront bénéficier aux jeunes qui sont touchés par le chômage dans notre département. Nous aurons dans l'eau de 570 emplois qui viendront s'ajouter au CAE, pour les autres personnes en difficulté. Donc c'est très important, en effet, dans cette période de trous économiques, que les jeunes puissent trouver un emploi avec un volet qualification, puisque une formation sera obligatoire, une formation qualifiante, en plus du tutorat pour ces jeunes qui seront dans les emplois d'avenir.
C'est Narbonne qui donne le ton dans l'Aude avec 7 emplois d'avenir signés vendredi après-midi. La députée narbonnaise Marie-Hélène Fabre ne cachait pas sa fierté lors de la cérémonie.
La ville de Narbonne et Grand Narbonne, 3 semaines après le vote de la loi et la publication des décrets, met en application ce dispositif. Et je dois reconnaître que pour le législateur que je suis, c'est quand même un très bon moment particulier parce qu'on voit dans les faits la concrétisation d'un texte qu'on a voté et pour lequel, à l'Assemblée nationale, nous étions particulièrement mobilisés pour que ce texte soit en application dès le 1er novembre. Donc engagement pris, engagement tenu et réalisé. Donc ce sont des emplois qui sont ouverts, dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales, les associations à but non lucratif, donc on est dans un secteur bien défini. Je le disais tout à l'heure, on va donc voter très prochainement, le projet de loi va venir au Parlement d'ici la fin du mois de décembre, pour avoir un dispositif qui va s'adresser plus particulièrement au secteur privé, qu'on appelle le contrat générationnel.
Pour ces emplois d'avenir en tant qu'employeur potentiel, entreprise du secteur social et solidaire et collectivité, il faut s'adresser aux missions locales d'insertion proches de chez vous.
Et toujours concernant les mesures gouvernementales, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, veut lutter contre les déserts médicaux. Et cela tombe bien, vu qu'en Lozère, il n'y a plus que 60 médecins généralistes. Lundi soir, à l'Institut de soins infirmiers de Mende, était d'ailleurs organisé un débat sur ce problème sous l'égide d'Henri Pujol, le président de la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, et de Jean-Paul Bonhomme, le président de la Conférence territoriale de santé de la Lozère. Alors l'idée de la ministre de la Santé est de garantir un revenu minimum de 55 000 euros par an aux médecins qui s'installent en zone rurale. Est-ce une bonne idée ? Le docteur Henri Pujol demande à voir.
Alors nous y avons réfléchi justement. Alors à mon avis, c'est une initiative intéressante. Il faut voir comment elle sera reçue. Moi je la vois un peu comme une expérimentation. C'est-à-dire, ce n'est pas pour maintenir les personnes qui sont là, c'est pour que des jeunes puissent venir. Hein. Les jeunes qui peuvent venir, on leur dit, attendez, vous aurez un minimum garanti. Et je pense que c'est une expérimentation qui mérite d'être tentée. On verra ce qu'il en ressort. Moi, je crois que dans une situation compliquée, il ne faut pas avoir peur de prendre des mesures un peu délicates parfois. Je demande à voir.
Et le docteur Jean-Paul Bonhomme est plus catégorique. Il ne pense pas que cela sera la solution pour résoudre les difficultés d'installation de médecins en zone rurale.
4 600 euros, c'est une somme intéressante, mais je pense qu'un médecin qui s'installe aujourd'hui dans un point du territoire départemental n'aura aucune difficulté à gagner ses 4 600 euros par mois s'il s'investit de façon correcte, s'il a une approche normale dans la pratique médicale. À mon avis, c'est un outil qui peut être intéressant, comme tous les outils qu'on a mis en exergue ces dernières années, mais je ne pense pas que ce soit la solution, effectivement, qui permettra de résoudre ces difficultés-là. Le cadre de vie, c'est effectivement quelque chose de déterminant, et on véhicule une image trop négative de la ruralité, et pour ceux qui ont la chance ou qui ont l'audace de venir en contact avec cette réalité, sont très surpris, effectivement, que tout n'est pas néfaste. Et effectivement, moi, j'ai tenu personnellement à ce qu'au niveau du département, on mette en place la prime au stage. Cette mesure est confortée pour moi par ce que je viens de lire dans le bulletin de l'Ordre national des médecins, qui vient d'affirmer que les médecins s'installent sur leur lot de formation. Une formation de 6 mois, éventuellement de 6 autres mois pour un médecin qui veut choisir la médecine libérale à Lozère, est un élément, pour moi, incitatif et persuasif.
Et c'était un sujet de 48 FM. Et après la montagne, allons sur la côte méditerranéenne en compagnie de Naïma Serve de Delta FM Terre de Camargue qui a rencontré le responsable d'une société basée à la Grande Motte, SM2 Solutions Marines qui s'est associée à la ville en juillet pour restaurer les herbiers marins. C'est la naissance du projet Graines de mer semées pour la Méditerranée qui vise à collecter les graines, les faire germer et les réintégrer dans le tissu marin. En phase d'expérimentation, SM2 s'est vu décerner 2 trophées par le ministère de l'Environnement pour le concours Prix Entreprise et Environnement, le premier prix biodiversité. Et entreprise, SM2, une société prometteuse que Sven-Michel Lourier, son directeur, nous présente.
Alors SM2 Solutions Marines réalise de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets en mer, ports, éoliennes offshore, extraction de granulats, mais également on a une activité de recherche et développement pour la restauration du milieu marin. Et ce projet Graines de mer, qui a pour objectif de restaurer le milieu marin, ou du moins les herbiers marins, s'inscrit dans notre démarche de recherche et développement dans le développement durable.
Ce projet a lieu à la Grande Motte, mais aussi ailleurs.
Il a lieu à la Grande Motte pour ce qui est de la pépinière et de la banque de graines, car le porteur institutionnel du projet Graines de mer est bien la ville de la Grande Motte. Nous sommes les opérateurs du projet, la cheville ouvrière, mais c'est bien porté par la collectivité et cofinancé par la ville et surtout par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Ce projet, il s'agit de quoi exactement à la Grande Motte ?
Donc à la Grande Motte, il y a l'installation dont je viens de parler et le repeuplement aura lieu au large de la Grande Motte, au large de Palavas et au large des Arresquiers, c'est-à-dire Frontignan à côté de la ville de Sète. Ce projet a pour objectif donc de collecter des graines sur le pourtour méditerranéen en partenariat avec 5 pays, l'Italie, l'Algérie, le Portugal, et puis de stocker des graines dans une banque de graines qui est ici. Et ensuite, certaines de ces graines vont servir, après germination, à être cultivées dans les aquariums que vous voyez là, afin d'être en 2013 repeuplées au large des 3 sites que j'ai évoqués. Ce projet a démarré il y a quelques mois. On a commencé à collecter certaines graines et à les mettre en banque de graines et on vient d'avoir nos premières germinations le mois dernier. Il y a aussi également ce qu'on appelle des épaves de mer qui sont collectées. Ce sont des végétaux qui ont été arrachés lors d'une tempête, qui n'ont aucune chance de s'enraciner à nouveau et que l'on collecte sur la plage ou dans les faibles fonds pour ensuite faire des boutures et les mettre en aquarium. Donc pour le repeuplement, on aura des boutures issues de la germination et des épaves qu'on a ramassées sur la grève.
Pour être plus précise, quelles sont ces plantes que vous allez utiliser justement pour la restauration ?
Alors il s'agit bien de plantes marines et non d'algues, ça n'a rien à voir. En Méditerranée, il n'y a que 4 espèces de plantes, c'est-à-dire des végétaux qui sont pourvus de feuilles, de tiges horizontales et enterrées qu'on appelle les rhizomes, et de racines qui sont le moyen de s'ancrer sur les fonds, et puis bien sûr de puiser des nutriments pour les plantes. Il s'agit de 4 espèces, il n'y a que 4 espèces en Méditerranée, et on a la chance autour ou pas loin de la Grande Motte d'avoir ces 4 espèces qui symbolisent ce que l'on peut collecter sur l'ensemble du pourtour méditerranéen.
Restaurer les herbiers, c'est aussi maintenir notre environnement ?
Oui, il y a eu des actions de prévention, c'est-à-dire de sensibilisation auprès du public, d'actions, de films ou d'opérations nettoyage de plage, etc. Mais des actions de restauration, il y en a très peu, ce sont les toutes premières, dans lesquelles, en fait, on n'a pas la prétention, nous, de restaurer des grandes superficies, mais plutôt de valider des protocoles pour ce qui est de la banque de graines, de la germination, des aquariums. C'est voir quel est le process pour ensuite le faire à une échelle plus grande et peut-être pas dans les aquariums que vous voyez, mais dans d'anciennes salines ou dans des étangs.
C'était donc un sujet de Naïma Serve de Delta FM, Terre de Camargue.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les forces de l'ordre s'organisent à la veille des fêtes, moment particulier sensible dans l'année. C'est le cas notamment sur l'arrondissement de l'Audef dans l'Hérault. Alors comment cela se passe ? La réponse du commandant Jean-Marie Bonnet, le patron de la compagnie de gendarmerie de l'Audef.
Comme chaque année, avant les fêtes de Noël, on a les magasins qui font des achats pour revendre sur leurs clients. On a des clients avec des valeurs sur eux. Donc bien évidemment, on met en place un dispositif pour renforcer cette surveillance des commerces, pour éviter les cambriolages de nuit des sociétés et pour sécuriser les personnes qui se rendent sur les commerces. On reçoit quelques renforts en termes de réservistes de la gendarmerie qui vont gonfler nos effectifs sur des opérations ponctuelles ou plus régulièrement sur les opérations qu'on est amené à faire la nuit. Sur un département comme l'Hérault, on a l'été qui est une période sensible puisque il y a la période où les estivants arrivent, mais cette période de sécurisation des commerces et des zones commerciales est une période très sensible sur laquelle pendant 6 ou 7 semaines, on va mettre tous nos efforts pour que ça se passe au mieux. Il est quand même important, au-delà des actions qu'on peut mener sur le terrain avec nos partenaires, de donner la plus large information à la fois à la population, mais aussi aux commerçants, à tous les acteurs qui se sentent soit victimes, soit dans le schéma de la vente de tous les produits de la fête, de façon à ce qu'ils se sentent en sécurité. À l'occasion de toutes les patrouilles, il y a un contact qui est pris avec le commerçant, de façon à déjà réactiver son adresse, puisqu'on a la vigilance commerce qui existe, la messagerie qui existe pour avoir un lien avec les commerçants. Donc on réactualise les adresses e-mail des commerçants, voire leur numéro de téléphone.
Et cette année, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier vient de mettre en place un dispositif nouveau et gratuit pour les commerçants et entrepreneurs en partenariat avec les forces de police et de gendarmerie.
Les commerçants s'inscrivent sur le site de la CCI de Montpellier, vont donner leur activité, vont donner leur nom, vont donner leur numéro ciré pour qu'il s'agisse bien des commerçants. Ce dispositif permettra soit aux commerçants de faire remonter une information en direction de la CCI, et bien sûr la CCI relaiera cette information à destination des forces de police et de gendarmerie, soit le commerçant sera informé directement par SMS sur son téléphone portable d'une alerte qui pourrait être par exemple la diffusion de fausses monnaies. Si un matin on découvre que 2 ou 3 commerçants sur une zone sont victimes de fausses monnaies, on puisse, dans les heures qui suivent, informer tout le secteur et sensibiliser les commerces les plus susceptibles d'être victimes. Ben nous, c'est une interconnexion avec les commerçants.
Qui sont en contact aussi du terrain, comme vous, régulièrement, et des gens.
Exactement. Donc, mes unités, tous les jours, vont à la rencontre des commerçants. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de ressortissants de la chambre de commerce. Tous ne peuvent pas être contactés. Et puis, selon les horaires, ils ne sont pas toujours disponibles aussi à l'échange. Ça permettra, quel que soit le moment de la journée, justement, de pouvoir diffuser cette information. Ça peut aussi être une information la nuit, avec un risque avéré, par exemple, d'un cambriolage de magasins de vêtements. On a parfois des difficultés à rentrer en contact avec certains commerçants la nuit. Là, ça permettra aussi peut-être de diffuser certaines informations plus rapidement.
Le commandant Jean-Marie Bonnet, commandant de la compagnie de gendarmerie de Lodève, au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève. Les marchés paysans et les circuits courts ont le vent en poupe. Pour autant, le consommateur ne dispose pas souvent d'un outil simple pour identifier clairement les produits agricoles proposés sur les étals. Et la semaine dernière, dans l'Hérault, à Saint-André-de-Sangonis, avait lieu la première réunion d'une commission ayant pour objet la mise au point d'un outil d'information commun sur l'origine des produits agricoles. Des précisions avec Yves Martineau, le président de l'Association des marchés paysans du Languedoc-Roussillon, au micro de Frédéric Glisbel de Radio Pays d'Hérault.
Il y a une interrogation de tout le monde, hein, aussi bien des consommateurs que des paysans, comment je me présente, des élus, est-ce que je fais un marché vraiment paysan, etc. Et l'interrogation maintenant, c'est comment voir très rapidement que j'achète un produit local, hein, je pense à tous les gens qui sont locavores, comment j'achète un produit local, qu'est-ce que c'est un produit circuit court, pourquoi j'achète quelque chose qui est un artisan, quelqu'un qui a transformé un produit, ou pourquoi sur un étal, en définitive, je vais voir des produits qui sont des produits dits directs, des produits dits circuits courts avec un intermédiaire ou des produits qui sont tout simplement achetés ailleurs, chez un grossiste. Et bien souvent, on trouve sur le même étal tous ces produits-là. Et il n'y a actuellement aucune transparence. Donc, l'idée est de mettre une transparence en place. Transparence à trois niveaux, d'ailleurs. C'est une transparence au niveau du marché, c'est-à-dire si on dit qu'on est un marché de producteurs, forcément, on va trouver que des producteurs. Si on dit qu'on est un marché à carré avec carré paysan, on va trouver un carré identifié avec des paysans et des producteurs, l'identification des étals, savoir qui vend, si c'est un commerçant, un producteur, et ce qu'il a sur l'étal, et est-ce que tout vient de chez lui, ou est-ce que c'est que du circuit court, ou si c'est de la revente. Donc c'est une identification à trois niveaux.
Enfin, la commission sur la mise au point d'un outil d'information commun sur l'origine des produits agricoles rendra publiquement compte de ses premières propositions au domaine départemental des Trois Fontaines du Pouget dans l'Hérault le samedi 15 décembre prochain à 16h. Tout au long de l'année, le SAMU social, la Croix-Rouge, le Secours catholique aident les sans-abri au quotidien. Mais en ces périodes de fête et de froid, il fallait faire quelque chose de spécial. C'est comme ça que Pascal Parot et Thierry Telade ont inventé l'opération Sac à dos en 2005, une opération hivernale qui vient de débuter dans l'Hérault.
Sac à dos, c'est une opération qui fonctionne à Montpellier depuis 7 ans, qui est maintenant dans une vingtaine de villes en France et qui consiste à demander aux donateurs de nous composer un sac à dos complet. Avec quatre types d'objets à l'intérieur. Ces quatre types d'objets, on appelle des quatre kits. Un kit chaleur, vous voyez très bien ce que ça peut être. Pull, veste, manteau, jean, écharpe, bonnet, gants, hommes et femmes différenciés. Un kit hygiène, là aussi où on comprend tous hommes et femmes différenciés. Un kit festif, parce que ce n'est pas parce que les sans-abri sont dans la rue qu'ils n'ont pas envie de faire la fête à Noël et au jour de l'an. On propose aux donateurs de mettre dans ce kit des denrées ni périssables ni écrasables qui permettent aux SDF de faire la fête. Ça peut être des conserves de qualité, des chocolats, des marrons glacés, des boissons et d'autres friandises. Il y a aussi un kit culture-communication dans lequel on peut mettre au plaisir de chacun un livre, carnet, stylo, lampe de poche, poste de radio, timbre, enveloppe, etc., etc. Et on demande aussi et surtout à la personne qui compose ce sac de dédicacer ce livre, parce que ce livre lui a plu, et il explique au sans-abri pourquoi il lui a plu. Et si le ou les donateurs sont une famille entière, pourquoi ne pas faire un dessin par les enfants de la famille qui est ajouté à un petit mot qui compose le kit culture communication.
Alors comment fait-on pour donner un sac à dos pour participer à cette opération ?
Alors pour participer à cette opération, c'est très simple. Soit on est une personne seule et on a les moyens de composer un sac à dos complet, soit on se groupe avec des amis, la famille, des voisins, une association de commerçants, des lycéens, des collégiens, des étudiants, et Ensemble, la solidarité commence dès maintenant par la composition du sac. Ce groupe d'amis, de personnes, compose un ou plusieurs sacs et les remettent dans les maisons des services à la personne ADMR. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de villes de France, et particulièrement dans toutes les villes et villages du Languedoc-Roussillon. Et entre Noël et Jour de l'An, avec le concours de la Croix-Rouge française, nous les remettons aux sans-abri.
Alors ça fait donc 7 ans, vous l'avez dit, ça a bien marché les autres années ?
Depuis 7 ans, nous sommes en lente progression, et c'est vrai qu'on pourrait se réjouir de ça, mais c'est pas évident, parce qu'en réalité, la misère augmente. Mais tous les ans, ça fonctionne, parce que tous les ans, les donateurs sont toujours généreux. J'espère que cette année ne nous démentira pas.
Vous espérez recueillir combien de sacs à dos ?
Alors, ça dépend des villes. Nous espérons recueillir environ, sur l'ensemble des villes où nous sommes présents, environ 5000 sacs à dos.
C'était Pascal Parot, propos recueillis par Maud de Bourquenay de RCF Maglonero. Et merci à tous d'avoir suivi ce carnet de région, aux radios qui participent et qui diffusent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même radio, pour un nouveau magazine.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.